campus. www.orléans.radiocampus.org.
500 000 personnes se connectent chaque jour sur ce site français.
Tout dépend de la largeur de la bande passante.
Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre en veille prolongée à l'avenir?
Bah oui.
Non.
Radio Campus 88.3 FM.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Radio Campus Orléans pour Écoute ta fac. Comme chaque jour, on commencera par le Flash Actu, un petit tour de la presse aujourd'hui. Des infos internationales, nationales et locales préparées avec Rodrigue. Puis on enchaînera avec l'interview de Martin Lavaux et de Marie Dagono qui nous parleront du tiers-lieu de l'escale de Combleu, événement éphémère qui a lieu ce week-end. En deuxième partie, l'interview de Sandrine Ossour qui nous parlera des éco-délégués le temps de 5 minutes du collège Saint-Exupéry à Saint-Jean-de-Bray. Ensuite, une chronique sur le mois des fiertés avec Lucie. Et on terminera avec une chronique préparée par Faustine et Juliette sur les troubles du comportement alimentaire chez les étudiants. Voilà, c'est le programme du jour dans Écoute ta fac et c'est parti. On s'écoute tout de suite le son Tarp Rodonis Fizi Barut Remix de Rodirs Fit Palmes Zidas. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans 88.3.
Thank you.
On est de retour sur Radio Campus Orléans et on attaque pour les nouvelles internationales. On commence à New York. Depuis mardi, les autorités de la ville et de l'État ont intensifié leurs efforts de sensibilisation en lançant des alertes pour informer les habitants de New York et en distribuant des masques utilisés pendant la pandémie du Covid-19, surtout à Manhattan, Brooklyn et Queens. Les fumées des incendies au Canada transportent des cendres et une odeur âcre. Ces incendies ont dévasté 3,8 millions d'hectares forestiers en 2023 et 150 feux sont encore actifs. Au cours des derniers jours, le ciel s'est considérablement assombri et l'air est devenu irrespirable, provoquant une irritation des yeux et des gorges chez les 8,5 millions de résidents de New York. L'indice de qualité de l'air est passé de nocif à très nocif ce mercredi. Ces incendies sont étroitement liés au changement climatique, ce qui explique leur intensité et leur fréquence croissante.
Ensuite, on passe à l'Ukraine. En Ukraine, 6000 personnes évacuées des zones inondées. La destruction du barrage de Kakhovka mardi a inondé une zone de plus de 600 km² sur la rive droite du fleuve Dnipr, contrôlée par les Ukrainiens, comme sur la rive gauche occupée par les Russes. Des évacuations ont lieu, mais dans un conflit qui s'enlise, les populations voient leur situation de plus en plus dégradée. Tout de suite, on passe à l'Arctique avec Rodrigue.
Eh oui, en Arctique, l'Arctique qui pourrait être privé de glace de mer en été 2030, dans un article publié ce mardi, des chercheurs affirment que l'Arctique pourrait être privé de glace dès l'été 2030, soit bien plus tôt qu'estimé jusqu'à présent, et même dans un scénario de faible émission de gaz à effet de serre, selon France 24.
Et on continue avec tout ce qui est l'actualité santé, avec la Commission européenne qui autorise un vaccin contre la bronchiolite et la pneumonie. Par rapport à cette actualité, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, la Commission européenne a donné son feu vert au géant pharmaceutique GSK pour mettre en vente son produit. Une mise en vente déjà approuvée aux États-Unis, elle autorise donc le commerce de ce vaccin que la société a mis en place contre la bronchiolite. On retourne en France pour les actualités nationales avec Rodrigue. On va parler de la réforme des retraites.
Eh oui, la réforme des retraites et le vote à l'Assemblée. À 9 voix près, l'Assemblée nationale a rejeté ce lundi la motion de censure du groupe Liotte contre le gouvernement d'Elisabeth Borne après le déclenchement de l'article 49 alinéa 3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme des retraites. La motion de censure du Rassemblement national a été également rejetée. Une info de France Bleu.
Et on continue avec l'actualité à l'Assemblée nationale avec le budget des armées qui est validé. Depuis hier, l'Assemblée nationale a largement adopté en première lecture le principe d'une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour le budget des armées destiné notamment à préparer et moderniser les forces militaires. Malgré les critiques de l'opposition sur des effets d'annonce, nous informe La Croix. C'est vrai que ce budget est très important en ce moment, en vue du contexte ukrainien. On continue avec les infos locales. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu lundi à Pithiviers, au nord du Loiret. Pap Ndiaye, originaire du nord du Loiret également, à Manchecourt, entre Malesherbes et Pithiviers, nous a fait une petite visite surprise dans le collège et le lycée de la ville de Pithiviers. Son objectif était d'inaugurer le collège voisin de Danonville, le collège Marie-Jackson, et de valoriser la pratique des mathématiques en étant au contact des collégiens. Donc il a fait un petit bain de foule en étant avec les collégiens pour discuter mathématiques. Et pour la rentrée prochaine, justement, le ministère de l'Éducation veut d'ailleurs créer des clubs de maths dans chaque collège pour redonner le goût de cette matière aux élèves. Le natif du nord du Loiret a donc retrouvé cet herbosrone le temps d'une matinée à Pithiviers pour parler mathématiques. On continue avec Rodrigue avec une information à l'Université d'Orléans.
L'Université d'Orléans est une équipe de chercheurs qui ambitionne d'utiliser la jussie ou la renouée du Japon pour en faire un produit répulsif et bio-pesticide. D'un côté, des plantes invasives qui se multiplient à l'infini, impossibles à éradiquer, comme la jussie et la renouée du Japon. De l'autre, des insectes vecteurs de maladies comme les tiques ou qui ravagent des cultures comme les pucerons. Et entre les deux, une équipe de chercheurs qui tente de faire de ces deux problèmes une solution.
Et on enchaîne avec le forum pour informer sur l'emploi et les enjeux sociaux du numérique à Orléans. cet après-midi, le forum Place du Numérique prend ses quartiers à Orléans, Place du Mar 3, avec 5 espaces thématiques. Les Human Tech Days réunissent chaque année, les acteurs du numérique en Centre-Val de Loire pour Place du Numérique, et c'en est un volet itinérant. Après Tours, Châteauroux, Chartres, Blois et encore Bourges, c'est à Orléans qu'on aura aujourd'hui ce rendez-vous qui propose de plonger dans les différents aspects des nouvelles technologies qui sont au cœur de nos vies.
Ils sont venus hier pour revenir un peu sur leur expérience musicale. L'association Le Salon est engagée dans la promotion de la culture hip-hop à Orléans. Ce samedi, au 108 rue de Bourgogne, ils organisent la 6e édition du Room. La soirée sera rythmée par une série de concerts en début de soirée, mettant en avant des artistes émergents de la région centre, suivi d'un open mic pour ceux qui voudraient s'exprimer. Un bar sera également disponible et sur place. Tout au long de la soirée, vous pourrez découvrir les créations stylistiques et designers de vêtements et de mobilier. Également, de 15h15 à 16h, le labo accueillera Green It, qui propose une animation autour de l'éco-conception pour réduire l'impact environnemental du numérique avec Nicolas Hachet, suivi d'une conférence sur la démarche RSE. Isabelle Jeannot et Laure Adriveau parleront entrepreneuriat. Quant à Clémence Debac, elle expliquera comment prendre en compte la sensibilité écologique en entreprise dans une perspective d'une politique RSE. Puis vers 19h, on voyagera au pays du cerveau. On parlera du stress et de l'anxiété avec Arnaud Ardouin et Germain Simon, journaliste et tennisman de haut niveau.
Merci beaucoup Lucie pour ces informations locales. On va tout de suite passer au rendez-vous guinguette.
C'est le rendez-vous guinguette.
Alors tout de suite, on reçoit sur le plateau Martin Lavaux et Marie Dagonneau qui vont nous présenter l'association L'Escale de Combleu, qui est un tiers-lieu éphémère qui nous organise un événement ce week-end à Combleu. Bonjour Martin Lavaux et Marie Dagonneau.
Bonjour.
Eh bien, bonjour et merci d'être venu aujourd'hui pour présenter cet espace culturel. Avant de commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et ce qui vous a conduit à créer cet espace à Combleu ?
L'histoire de l'association L'Escale Combleu commence en 2018. En fait, le site qui nous intéresse, c'est une friche. Alors, on parle de friche industrielle, mais c'était plutôt un site tertiaire. C'était un site d'IBM France, c'était un grand site administratif et comptable qui était installé sur Saint-Jean-de-Bray et Combleu, sur une quinzaine d'hectares. Et IBM s'était installé dans les années 60 et est parti en 2005, a quitté le site en 2005. Et depuis, ce site, donc à cheval sur Saint-Jean-de-Bray, Combleu, était en friche. Et en 2018, les bâtiments, les principaux bâtiments du site IBM ont été démolis. Ça représente 30 000 ou 40 000 mètres carrés de bâtiments. Et il en restait un qui était le restaurant d'entreprise, la cuisine et le restaurant. À la grande époque, il y avait presque 2 000 ou 2 500 personnes, je crois, sur le site. Donc c'est un bâtiment assez important. Et celui-là, c'était une option dans le marché de démolition. Et on s'est dit, c'est un groupe d'amis combleusiens, qui habitants de Combleu ou amoureux de Combleu. On s'est dit, c'est pas possible de démolir ce bâtiment parce qu'il a un potentiel incroyable. Il est dans un site assez exceptionnel, un peu naturel, à l'extrémité de Combleu, côté Saint-Jean-de-Bray. Et c'est un bâtiment en béton de 3000 m2. Voilà. Et on a trouvé qu'il y avait un intérêt vraiment. Il fallait le garder. Donc on s'est lancé, on s'est regroupé. On était une douzaine à l'époque. Et on a commencé par faire un espèce de dossier pour représenter tous les potentiels du lieu, du site et toutes ses qualités pour démontrer qu'il y avait quelque chose à faire. Et depuis, on définit ce projet un peu plus, on avance dans la définition de ce projet pour, à terme, ce qu'on souhaite, c'est y créer un tiers-lieu. Donc on reviendra sur la notion de tiers-lieu, mais voilà, l'aventure de l'escale, elle est née comme ça en 2018.
Et c'est vrai, c'est la troisième ou la quatrième guinguette qu'on présente, il me semble. Et c'est vrai que celle-ci, elle est assez spéciale. La particularité de l'escale, c'est que c'est un milieu culturel, c'est un événement éphémère. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?
Alors, je poursuis. Marie, je te passe la parole après sur le tiers-lieu. Mais alors, pourquoi c'est comme ça? Alors, nous, notre projet, c'est un peu plus qu'une guinguette. Certes, ce week-end, dans l'événement qu'on prévoit, c'est le troisième événement qu'on fait sur le site, parce que depuis la création de l'asso, bon, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses, il y a eu un contexte politique, des élections qui ont fait qu'on n'a pas pu faire des événements sur le site. Mais en 2021, le premier, c'était une journée un peu porte ouverte. On a réouvert le bâtiment, on a nettoyé les abords pour permettre un peu aux Comblesiens et aux gens qui passaient sur les bords du canal et de la Loire de le redécouvrir. Ça, c'était sur une journée, c'était un peu plus porte ouverte. Et puis, l'année dernière, on a fait le premier événement qu'on a appelé tiers-lieu éphémère, où on a essayé en un week-end de préfigurer ce que pourrait être le tiers-lieu à terme, c'est-à-dire avec plein d'activités intergénérationnelles, mais des activités culturelles, donc des concerts, des spectacles, des expos, des ateliers pour les enfants, des marchés de producteurs locaux. Enfin, on reviendra sur le programme de ce week-end. Mais donc, et c'est éphémère parce que ben, nous, on n'est pas chez nous, on n'est pas propriétaire du bâtiment, le site, il est fermé, c'est pas un site qui est accessible au public, donc ça nécessite des démarches auprès du propriétaire qui est le PFLI, avec qui on a une convention et qui nous autorise à utiliser le bâtiment, mais ça nécessite des travaux de nettoyage, de mise en sécurité, voilà, pour accueillir le public sur ce site, parce que le site n'est pas accessible tout le temps. On aimerait bien qu'il devienne accessible plus souvent, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est entendu. Bah, écoutez, vous parliez du fait que vous aimez bien faire découvrir le lieu pendant le week-end. Justement, les dates là, de l'escale de Combleu, ce sera ce week-end, c'est bien ça?
C'est ça, les 10 et 11 juin. Peut-être venir revenir sur le programme, je ne sais pas si... Alors, le samedi 10 juin, donc, on commence à partir de midi avec de la restauration locale, fournie par l'escale. Merci.
Ouais. Vas-y, je te laisse. Oui, donc on commence. Enfin, donc il y a pas mal de choses. À partir de midi, il y aura donc une guinguette ouverte pendant tout le week-end. On aura la présence de la ressource AA qui va ouvrir une boutique éphémère, donc avec des objets à vendre en permanence. La réalisation d'une fresque par Ronnie Jackson et Guillaume Guerrier. Des skateurs qui feront une démonstration avec un set de DJ le dimanche après-midi par Nicolas Royer. Une démonstration de hip-hop, des ateliers, un atelier floral avec Mathilde Vial. Il y aura la possibilité de visiter le chantier de renaturation des bords de la Bionne. Il y aura un atelier de réparation de vélo avec Interaction. Et puis ensuite, un apéro électro avec Tarmac 3000. Une restauration aussi assurée par l'escale le samedi soir. Et puis deux concerts de rock avec Noise Inatic, qui est un groupe 100% comblesien, enfin jeune groupe de rock comblesien, avec Pim Punk Griff. Et puis on terminera avec un set de DJ Need samedi soir. Et ensuite, dimanche, je vais aller un peu plus vite, mais on commence par un marché de producteurs locaux qui sera dans le bâtiment, du yoga, du karaté. À midi, un grand banquet, on appelait ça banquet villageois. L'idée, c'est que tout le monde puisse venir soit acheter son repas au marché et qu'on fasse un grand déjeuner tous ensemble. Et puis l'après-midi, il y aura un atelier de percussion et on terminera avec un spectacle d'Alex Lutz à partir de 16h qui est organisé en collaboration avec le festival comblesien Les Verts à Pied. Et donc l'escale accueille un des deux spectacles de ce festival, donc organisé par la mairie de Combleu. Et puis on terminera avec un DJ set aussi de DJ Leba, DJ Barouche et DJ Vivi. Et puis en permanence, des mariniers qui seront là, un bateau, des jeux, des animations, des ateliers pour les enfants, plein de choses en continu.
Et justement, DJ Vivi, qui Viviane Behrer, salariée à Radio Campus Orléans, qui nous fera le plaisir de mixer pour la clôture du festival. Merci pour cette petite présentation. Une question me turlupine l'esprit. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu, selon vous ?
Alors, selon moi, je vais en parler pour moi, parce que donc je suis étudiante en doctorat à l'Université d'Orléans. Je travaille sur les tiers-lieux de la région Centre-Val-de-Loire. Déjà, il faut savoir que définir le tiers-lieu, c'est complexe, dans la mesure où il y a autant de tiers-lieux que de territoires, et c'est un processus de la marge, donc nécessairement difficilement saisissable. Mais néanmoins, donc, selon mes recherches, le tiers-lieu est un phénomène que je pense structurel à toutes les sociétés, dès lors qu'en fait, un décalage est ressenti entre la gestion du réel par l'institution et les utopies des individus. Le tiers-lieu, en fait, fonctionne comme une agrégation d'individus qui vont se rencontrer à la marge. Ils ont des profils généralement très hétérogènes. Ils vont faire configuration sociale inédite et empirique autour de valeurs et pratiques telles que la coopération, la mixité sociale et la gouvernance démocratique. En fait, le tiers-lieu, pour simplifier, il répond de façon innovante, aux besoins insatisfaits du territoire dans lequel il s'ancre. Finalement, pour conclure, je pense qu'on peut dire que le tiers-lieu est un espace de transition vers d'autres modèles sociétaux. C'est un espace de structuration des utopies. En tout cas, c'est comme ça que j'aime à le voir.
C'est génial de pouvoir utiliser ce genre de lieu pour mettre en avant des artistes. Il me semble qu'il y a pas mal d'artistes locaux, si je me trompe.
Oui, oui, oui.
Donc c'est bien, vous avez fait une pierre deux coups finalement, vous avez revalorisé un lieu tout en revalorisant des artistes.
Ce qui est amusant, c'est que l'année dernière, on a sollicité quelques artistes pour venir et maintenant, c'est un peu le contraire, on est sollicité de plus en plus. On a des demandes d'artistes qui veulent venir, soit exposer, soit... J'ai peu parlé d'ailleurs dans le programme parce que c'est en continu, mais on va avoir beaucoup d'expositions d'artistes et puis de performances en live aussi d'artistes qui vont être là et qui vont performer. Je rajouterais peut-être sur la définition de tiers-lieu, Marie a parlé d'une définition un peu générique, peut-être sur le nôtre, enfin sur le projet de l'Escale Combleu, nous comment on le voit et comment on l'a construit et où on en est dans la programmation. Ce qui est intéressant à l'Escale Combleu, c'est que le projet de tiers-lieu, il est né en fait du site et du bâtiment et du potentiel du site et du bâtiment. Il y a parfois des tiers-lieux qui se créent et qui n'ont pas de lieu, qui cherchent des lieux, des bâtiments.
Spécial,
ouais. Nous, la spécificité, enfin c'est pas forcément une spécificité. Mais disons qu'on a construit ce projet autour du bâtiment. Et un des éléments clés, c'était le site, c'est-à-dire la convergence de trois rivières, du canal, de la Loire et de la Bionne. On est vraiment à la convergence, la confluence. Et donc, on a un des premiers éléments qu'on voulait installer, c'est un chantier naval avec toutes les associations de mariniers, enfin les mariniers qu'on peut avoir à Combleu et dans les communes limitrophes. Donc, le projet, il s'organise autour de 5 grands pôles, qui est une escale fluviale, donc chantier naval, base de loisirs nautiques, et puis hébergement de cyclotouristes de la Loire à vélo et de la future véloroute du canal qui vont passer juste devant le bâtiment. Donc il y aura un flux relativement important. Ça, c'est l'escale fluviale. Une escale collaborative avec des ateliers partagés, des chantiers participatifs, des espaces de travail en coworking qui pourraient être aménagés dans le bâtiment, et des locaux multifonctionnels, des espaces événementiels. Et puis une escale conviviale, c'est tout le pôle restauration, guinguette, accueil, peut-être avec à terme un restaurant gastronomique. Une escale culturelle, parce qu'on a des grandes surfaces et notamment un grand plateau qui fait presque 800 mètres carrés qu'on veut garder comme ça pour... On veut le garder libre pour y faire un maximum d'événements, des ateliers, des résidences d'artistes et ensuite une escale écologique avec la mise en valeur du patrimoine environnemental, du patrimoine local, la création d'un écolieu, la promotion des productions locales et des mobilités douces. Voilà à peu près les 5 pôles autour desquels s'organise le projet.
Merci beaucoup Martin Laveau. Marie Dagono,
oui.
J'ai une question. Comme vous êtes étudiante à l'Université d'Orléans sur toutes ces questions de sociologie, par rapport à l'exemple de l'escale de Combleu, qu'est-ce qui est intéressant sur ce modèle associatif et à terme, est-ce que ça pourrait fonctionner, que ce lieu ne soit plus éphémère, mais que ce soit vraiment un vrai tiers-lieu qui accueille au quotidien des individus de Combleu, Saint-Jean-de-Brèche, Essy et les alentours?
On envisage en effet un tiers-lieu durable à terme. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionne? Tout simplement, j'ai un peu de mal, là, je suis désolée.
D'abord, il faut qu'on trouve des financements pour réaliser le bâtiment, réaliser le chantier et remettre en état ce bâtiment. Mais là, on ne va pas dévoiler des chiffres ici, mais on travaille en dehors de l'organisation de l'événement éphémère. Nous, on travaille depuis des années à la construction de ce programme et donc on a un business plan Donc, parce qu'il faut, évidemment, c'est un tiers-lieu, il faut que ça fonctionne économiquement. On sait qu'on a des activités qui ne sont pas rentables quand elles sont à destination des associations locales. C'est pas forcément des activités rentables, mais d'autres, comme la restauration, le coworking ou l'événementiel, permettent d'équilibrer un budget de fonctionnement. Et nous, notre idée à terme, c'est que le bâtiment puisse être ouvert toute l'année avec une présence permanente et des temps forts. Alors, une activité qui sera plus saisonnière, évidemment, qui sera plus intense en saison estivale. Mais l'idée, c'est que ce bâtiment vive toute l'année et qu'il soit au service des Comblesiens, comme des gens qui passent sur les bords de Loire et des habitants. Enfin, il dépasse, c'est un projet qui, par son échelle, dépasse quand même largement les frontières de Combleu.
Et d'un point de vue sociologique, justement, pourquoi Combleu serait un terreau intéressant pour cette idée de tiers-lieu dans vos recherches, Marie Dagonneau? Qu'est-ce que vous avez analysé par rapport au tiers-lieu?
Ce tiers-lieu pourrait répondre à divers enjeux, notamment des enjeux économiques, des enjeux sociaux, de revitalisation notamment du territoire, de diversification de l'activité économique aussi notamment. Répondre aussi à des enjeux écologiques qui sont évidemment inhérents à toute notre société, des enjeux économiques, je l'ai dit. Bon, voilà.
Merci. Lucine, peut-être une question par rapport à Alex Lutz, le parrain de l'événement. Justement, Martin Lavaux, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, on peut vous en dire un mot, parce qu'Alex Lutz, on l'a rencontré il y a ça fait quelques années, je pense que ça doit faire 3 ou 4 ans, et on lui a assez simplement présenté le projet. À l'époque, il était un peu moins défini que ce qu'il est aujourd'hui, et il a très naturellement répondu favorablement. Il a visité le lieu, il l'a trouvé génial, et... D'ailleurs, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on montre le bâtiment et le site, des gens qui ne connaissent pas le projet, on comprend assez vite le potentiel et l'intérêt. Donc, il a été très, très sympa. Il nous a suivis. Il nous a proposé de parrainer l'association. Et donc, on en est ravis.
Entendu. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous, on en avait parlé un petit peu avant l'interview. Vous vouliez ouvrir l'escale de Combleu, Combleu, la friche en question, sur toute l'année.
Alors aujourd'hui c'est pas fait parce que il y a un processus d'élaboration d'un projet d'aménagement urbain sur l'ensemble du site de l'ex-site IBM, donc ça représente 3 hectares. C'est un projet qui est en cours de discussion en ce moment, qui est piloté par la mairie de Combleu. Donc ça va prendre encore de toute façon quelques années avant que cet aménagement soit réalisé. Et nous, on souhaite que, en parallèle de cet aménagement urbain, on arrive à réunir les fonds nécessaires à réhabiliter le bâtiment. Donc, on a encore quelques années devant nous en occupation, j'allais dire éphémère, parce que là, le bâtiment est complètement... c'est qu'une structure, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, donc c'est une occupation, c'est pas hyper facile de l'utiliser. Mais néanmoins, on a une convention avec le PFLI qui est le propriétaire et qui nous permet de l'occuper de façon un peu plus facile en période estivale. Ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi organiser des petites réunions avec nos adhérents. On a une centaine d'adhérents dans l'association, donc faire des petites soirées thématiques de façon assez simple sur le site. Mais à terme, on souhaite qu'on puisse l'ouvrir de plus en plus et surtout que le projet se fasse et devienne pérenne.
En espérant que ça marche, parce que pour moi, ça me semble être un très beau projet, finalement. Mais c'est tout pour nous. Nous, on n'a pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie d'être venu présenter. Peut-être qu'on peut rappeler les dates, encore une fois.
Eh ben, samedi prochain, 10 juin, et dimanche, 11 juin, à partir de midi le samedi jusqu'à minuit, en gros, et de 9h à 17-18h le dimanche 11 juin.
Entendu, en espérant qu'il y ait du monde et que le temps soit avec vous.
On espère aussi.
Encore merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Martin Lavaux et Marie Dagonneau de l'escale de Combleu pour être venus sur notre antenne. On enchaîne tout de suite sur Écoute ta fac avec une petite pause musicale. On va s'écouter Asile sauvage de Silver Remix de To Imago. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans.
Thank you.
Vous êtes de retour sur Radio Campus Orléans. On va tout de suite écouter la chronique de Lucie par rapport à au mois des fiertés. Lucie, on t'écoute.
Tout à fait. Vous le savez peut-être déjà, mais le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Il s'agit d'un événement célébré à travers le monde visant à commémorer la lutte pour les droits des personnes concernées. Cette initiative trouve ses origines dans les émeutes de Stonewall. Les émeutes de Stonewall, justement, parlons-en. Dans les années 50 et 60, les personnes homosexuelles et transgenres américaines font face à un système juridique discriminatoire. Dans la nuit du 28 juin 1969, il y a donc 54 ans, a lieu une énième descente de police dans l'un des seuls établissements de la ville de New York où la présence LGBTQ+ était tolérée, le Stonewall Inn. Un bar qui demeure jusqu'à aujourd'hui un emblème de la lutte pour l'égalité. La police traîne violemment la clientèle hors du bar et n'hésite pas à contrôler les hommes qui leur semblent les plus efféminés. Les clients en ont assez et décident de se révolter. Avant, lors d'une descente de police, les gens se séparaient. J'ai moi-même été dans l'une d'elles et parce que j'avais l'air hétéro aux yeux des policiers, ils m'ont dit de sortir du bar. Mais tous les hommes efféminés ont été arrêtés, déclare Fred Sargent, l'un des acteurs principaux de la lutte LGBTQ+, à ce moment-là. C'est ainsi que des premières manifestations spontanées et tumultueuses contre un raid de la police et un système oppressant des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. Rappelons-le, un raid est supposé intervenir dans des affaires de grand banditisme, de terrorisme ou de prise d'otages. Ces émeutes marquent l'émergence du mouvement queer aux États-Unis et dans le monde. Depuis, durant tout le mois de juin, de nombreuses villes à travers le monde organisent des marches de la fierté. L'objectif est de promouvoir l'inclusion, la diversité et l'égalité des droits pour tous. Plus récemment, 3 présidents américains ont officiellement déclaré le mois de juin comme le mois des fiertés aux États-Unis. Bill Clinton en 1999 et 2000, Barack Obama de 2019 à 2016 et Joe Biden en 2021 ont déclaré qu'ils reconnaissaient les marches des fiertés. 50 ans après les émeutes de Stonewall, le chef de la police de New York s'est récemment excusé pour les violences policières commises en 1969. Il y a désormais une place en honneur à cela. Juliette, on t'écoute pour les TCA. Dis-nous, qu'est-ce que c'est une TCA ?
Eh bien, j'ai écrit cette chronique avec Faustine, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, parce qu'à l'occasion du mois des fiertés, on avait envie de parler d'une fierté un peu particulière, celle de survivre aux troubles du comportement alimentaire, ou TCA. En effet, vendredi dernier, le 2 juin, c'était la journée mondiale des TCA. Déjà, les TCA, c'est quoi ? Le CHU de Nantes nous en donne une définition. C'est la perturbation de la relation à l'alimentation altérant de façon significative la santé physique comme l'adaptation psychosociale. C'est donc une maladie qu'on trouve sous de nombreuses formes qu'on connaît tous plus ou moins. Il peut y avoir l'anorexie, la boulimie, mais aussi l'hyperphagie, le méricisme, le pica ou encore la potomanie. En fait, on se demandait si un trouble, c'était forcément une maladie. Toutes les deux, on s'était mis d'accord sur le fait que non, ça pouvait aussi être des comportements qui y ressemblent, mais qui ne sont pas encore des maladies. Mais en cherchant un peu plus loin, tous les médecins sont unanimes. Les troubles du comportement alimentaire sont forcément pathologiques. Mais alors, c'est quoi ces actions qui y ressemblent ? Vous voyez cette personne qu'on entend prendre ou perdre du poids, mais avec une alimentation qui n'est pas saine ? Typiquement, très peu manger pendant plusieurs jours, un seul repas quotidien pendant une semaine par exemple, mais qui reprend après un rythme plus sain. Est-ce ici une maladie et donc un trouble non diagnostiqué ? Est-ce un symptôme d'un peut-être futur trouble ? Rien n'est très clair de ce côté-là, surtout que si on regarde les chiffres de la Fédération française anorexie-boulimie, les TCA, ça représentait en 2022 plus d'un million de personnes en France, dont la moitié ne serait aujourd'hui pas diagnostiquée et donc sans accès aux soins. Et en ce qui concerne les personnes malades, un des problèmes phares aujourd'hui, c'est de les prendre au sérieux. C'est de se dire non, les TCA, c'est pas seulement des blagues entre adolescents ou un effet de mode, parce qu'aujourd'hui, les TCA, ils sont assez médiatisés depuis les années 2010, dans des blogs ou des associations, par exemple. Mais c'est malheureusement pas suffisant parce qu'ils restent mal interprétés. Par exemple, sur TikTok, on va retrouver des sortes de cultes de la minceur par le biais de trends qui vont carrément faire une apologie de l'anorexie ou de la minceur, une minceur qui sera acquise souvent d'une façon malsaine.
Et c'est d'autant plus consternant qu'à cause de l'utilisation des réseaux sociaux à mauvais escient, des nouveaux standards se créent et vont alors dicter la vie des adolescents. En effet, les adolescents sont généralement les premières cibles des TCA, notamment les filles. Donc, sur ce sujet, les médecins confient qu'une adolescente sur 4 souffre de TCA contre un adolescent sur 5. En prenant à la légère ce genre de troubles et en essayant de les nier carrément, on provoque un choc émotionnel pour la personne atteinte qui peut avoir des conséquences graves. Ainsi, le site de la Santé publique France affirme qu'environ 5% des personnes souffrant d'anorexie mentale à long terme finissent par finalement en mourir, complètement consumées par la maladie. C'est pour cette raison qu'en France, la Fédération française anorexie boulimie vient justement balayer les tabous autour des TCA, notamment en fêtant la journée mondiale des TCA, donc le 2 juin, où tout le monde peut librement parler des troubles du comportement alimentaire sans en avoir honte. Cette journée permet donc à tout le monde d'être écouté, mais c'est également une occasion de s'informer sur le sujet et d'en comprendre les enjeux, savoir comment ça arrive, pourquoi c'est grave et pourquoi il est important d'en parler et de se soigner. En effet, se nourrir, c'est un besoin fondamental et c'est pas normal de se priver juste pour répondre à des critères et on peut pas éperdument se maltraiter jusqu'aux limites de son corps. Donc prenez soin de vous et n'ayez pas peur d'en parler.
Merci beaucoup Juliette, c'était très intéressant. Maintenant, on va écouter un petit peu de musique sur Radio Campus Orléans. On va s'écouter tout de suite Thème d'or, Africa de Itar Maraca, Rosario Remix, et l'artiste c'est Bathilda. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans. De retour sur Radio Campus Orléans, c'est l'émission Écoute ta fac, l'émission des étudiants. Vous êtes sur 88.3. On va tout de suite écouter un petit reportage interview de Sandrine Aussourd, professeure d'SVT au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye, à côté d'Orléans. Elle va nous parler de la mission d'éco-délégué, une mission très intéressante qui mêle à la fois citoyenneté et biodiversité. On s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus Orléans.
Alors, moi, je m'appelle Sandrine Aussourd, je suis professeure de SVT au collège Saint-Exupéry et je m'occupe des éco-délégués avec un collègue d'histoire-géographie, M. Fondras, avec la CPE et aussi avec le principal adjoint.
Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre projet d'éco-délégué et puis en quoi vous alliez biodiversité et citoyenneté dans ce travail éducatif?
Alors, au collège, donc, nous avons une trentaine d'éco-délégués qui sont volontaires et nous travaillons sur les objectifs de développement durable. Alors, les principaux objectifs de développement durable, c'est la préservation de la biodiversité, l'ODD 15. Donc, nous avons un potager, nous avons un apiscope. Donc, nous faisons des actions de sensibilisation pour comment préserver la nature. Et aussi, avec le potager qui est passé en permaculture, nous sensibilisons les élèves à l'ODD 13, donc lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, nous faisons aussi des actions de solidarité. Par exemple, nous avons fait une action pour la journée de la paix ou des collectes. Nous avons déjà fait le défi textile. Donc ça, c'est l'ODD 10. Et nous travaillons aussi avec la ville durable, la ville de Saint-Jean-de-Braye. On a fait, par exemple, une marche verte pour ramasser les déchets. Voilà, donc travailler par des actions concrètes les différents objectifs de développement durable. Et puis, nous impliquons les élèves dans la gouvernance aussi, dans le choix. Donc, il y a des comités de pilotage. Nous avons fait cette année pour la première fois un comité de pilotage commun avec le collège Coubertin. Et nous avons fait réfléchir les élèves dans différents ateliers et ils ont fait des propositions. Voilà, donc là, c'est la citoyenneté et la biodiversité et aussi la solidarité.
Alors, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Théo.
Et t'as quel âge ?
15 ans.
Et qu'est-ce que c'est être éco-délégué ? En quoi ça consiste ?
C'est un collégien qui est un élève comme tous les autres. Sa petite travail, il aide le collège sur différents projets. Il aide bien pour les ODD, les objectifs de développement durable.
Par exemple, tu peux parler du potager.
Nous avons créé un potager grâce au budget participatif. Et notre potager, on a réussi à cultiver quelques plantes, carottes, radis, etc.
Merci beaucoup à Madame Aussourd et à son élève qui nous ont parlé de l'initiative d'éco-délégué au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye. Donc c'était intéressant d'écouter ce petit reportage parce que notamment la semaine dernière s'est tenu le sommet du plastique avec de nombreux pays du monde qui justement ont parlé de développement durable et cette démarche au niveau local à Saint-Jean-de-Braye essaye d'être plus éco-responsable avec un potager, un apiscope, comme l'a expliqué Madame Aussourd. Maintenant, on s'écoute tout de suite une petite musique sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours sur 88.3 pour l'émission Écoute ta fac. On va écouter une musique d'Harold Land, In the Back, In the Corner, In the Dark. Bonne écoute.
Thank you.
De retour sur Radio Campus Orléans, on est en direct pour Écoute ta fac et on va écouter Yann qui est stagiaire pour cette semaine à la radio qui va nous faire le programme de la journée.
Alors, à 15h, vous pourrez retrouver Le Moulin à Parole, votre émission restitution d'ateliers à l'éducation aux médias. Dans la soirée, vous pourrez retrouver de 20h à 22h The Real Kickin' Funkster, votre émission hip-hop et groove. Et enfin, pour bien finir la journée, de 22h à minuit, vous retrouverez Nation Groove qui vous propose d'écouter de la Jungle Drum Bass.
Merci beaucoup Yann. Et sinon, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, en quelques secondes, qu'est-ce que tu as fait cette semaine à Radio Campus et est-ce que ça t'a plu ?
Eh bien, cette semaine, j'ai pu découvrir toute l'équipe de Radio Campus. J'ai découvert les différentes catégories de radio, la console de son. Vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant.
Donc on le rappelle, tu es en seconde.
C'est ça.
Dans un lycée à Blois.
Effectivement.
Ok, c'est super. Eh bien merci pour avoir participé pour ce programme. Nous, on va se quitter avec les derniers instants de la musique In the Back, In the Corner, In the Dark d'Harold Land. C'était Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. On se dit à la semaine prochaine.